t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André Dimboumaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix, Radio Okapi. Après la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État a organisé son audience solennelle de rentrée judiciaire 2019 le mercredi 30 octobre dernier. Dans son discours, le bâtonnier national Mataliwamba s'est interrogé sur les bien fondés d'éclatement de la Cour suprême de justice à trois ordres juridictionnels, à savoir la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Conseils d'État. Certains observateurs estimaient qu'elle fit des mitigés le bilan du travail abattu par ces hautes cours. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en onde par Alain Goy. J.R. Lungembo est à la réalisation et Pierrot et la Mégie. C'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour le débat qui se tient en ce moment. Et nous recevons dans ce studio Maître Willy Wenga Ilombe, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître, merci d'avoir fait les déplacements des studios de Radio Capi. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'aborder notre sujet, vous avez sorti « Yatima, souffrir pour survivre ». C'est votre livre récemment dans les rayons des bibliothèques et librairies. Mais pourquoi « Yatima, souffrir pour survivre »
Merci beaucoup, Elamaji, de m'avoir invité à cette émission, parole aux auditeurs. Et je salue quand même cette observance, mieux cette attention littéraire de la radio Okapi, qui est attentionné à mes écrits, est tombé sur mon livre « Yatima, souffrir pour survivre ». Yatima n'est rien d'autre que orphelin en swahili. Mm-hmm. Et qui dit orphelin, dit un enfant qui n'a pas de parents, soit le père, soit la mère, on peut orphelin de père, orphelin de mère. Moi, j'ai voulu intituler ce livre « Yatima, souffrir pour survivre ». Qu'est-ce que je voulais dire dans cet ouvrage? C'est un ouvrage qui est presque une autobiographie. Moi, mm-hmm. je suis orphelin de père depuis le bas âge. Et que, à travers cet ouvrage, j'ai voulu démontrer que la souffrance d'un orphelin n'est pas pour disparaître. La souffrance d'un orphelin, c'est pour survivre au-delà de la souffrance. Mm-hmm. Je voudrais, à travers cet ouvrage-là, démontrer qu'on peut venir, comme les communs de mortels disent que Dieu ramasse, c'est pas moi, de la poussière ou
oui,
quoi.
Oui, exact, oui.
Et puis il fait monter quelqu'un, que le maître Willy Wenga qu'on peut voir, que tu peux recevoir dans votre studio, c'est un maître Willy Wenga qui vient de loin. Mmh. Et que je voudrais, à travers ces quelques lignes, témoignages, où je n'ai rien caché sur moi-même, mmh. démontrer au lecteur qu'il suffit d'une détermination, d'un courage, mmh. il suffit de positiver une souffrance pour y tirer des leçons, il suffit de positiver une souffrance pour survivre. Je ne veux pas dire souffrir pour vivre, mmh. souffrir pour survivre, c'est-à-dire vivre au-delà. Au-delà des efforts, au-delà des attentes, tout cela qui pensait que vous allez disparaître.
Merci.
Oui, voilà pourquoi j'ai fait cet ouvrage.
Merci. Je crois bien que l'équipe des cultures de Radio Capi pour entrer en contact avec vous hein, pour un travail plus élaboré sur la question de ces livres. C'est vraiment intéressant pour nous.
Je les serai disponible.
Merci beaucoup. Alors, pour revenir à notre sujet, quelle a été la nécessité d'éclater la Cour suprême de justice?
Alors, l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois autres juridictions a été d'abord la volonté des législateurs. Mm-hmm. Et non pas des législateurs, mais la volonté du constituant. Et ici, le constituant originaire qui est le peuple congolais. Lorsqu'on lui a proposé l'éclatement de la Cour suprême de justice, le peuple congolais consulté, n'est-ce pas, au référendum, a dit oui aux dispositions pertinentes relatives à l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois hautes juridictions. Et que le besoin, certainement, c'est un constat de la lourdeur que présentait le fonctionnement de la Cour suprême de justice. Imaginez-vous, le travail de ces trois autres juridictions aujourd'hui était centralisé au niveau d'une seule juridiction mmh. avec cette lourdeur qu'il ne fallait pas s'attendre à un arrêt de la Cour suprême de justice en deux mois, trois mois. parce qu'il fallait le même juge était le juge de la cassation, il était le juge de la légalité, il était le juge de la constitutionnalité, il était le juge de l'annulation. Il fallait offrir à la République, et là c'est le mérite peut-être de la Constitution de 18 février 2006, il fallait offrir à la République deux juges spécialisés. Et je pense que c'est ça même le projet pour ces trois juridictions, c'est que il fallait, à l'instar de la France, de la Belgique et des pays civilisés, que la République du Congo soit dotée de juridictions capables de traiter des questions spéciales. Il faut que la République ait de juges spécialisés en matière de cassation judiciaire. Il fallait offrir à la République des juges spécialisés en matière d'annulation. Il fallait offrir au juge, à la République, le juge spécialisé en matière du contrôle des constitutionnalités. Et voilà le mérite. Et je pense que ce qui a milité, c'est qu'on désengorge un peu la Cour suprême en l'éclatant en trois juridictions.
Mais est-ce que le fait que cela a pu coïncider, surtout pour les deux autres juridictions, avec la tenue des élections, est-ce que ça a essayé d'apporter un peu de cafouillage, on peut dire, dans la compréhension même du rôle de ces juridictions? Parce que c'est intervenu alors qu'on était déjà dans la fièvre des élections, après les élections. Est-ce que cela a eu quand même un impact dans la compréhension de ces juridictions?
En fait, je pense que la compréhension de ces trois juridictions devait partir d'abord de la compréhension des sections que ces juridictions constituaient au sein de la Cour suprême. Parce que c'est une matière spécialisée, c'est une matière des initiés, parce que vouloir comprendre le Conseil d'État ou la Cour de cassation, ce n'est pas un travail du commun des mortels, c'est un travail de spécialistes, des avocats, outillés, et qui ont fait des études pour apprendre et étudier tout cela, et voire même des journalistes spécialisés comme vous. Donc, déjà le travail la question des élections a lieu en 2011 avec la Cour suprême de justice, qui faisait fonction de la Cour constitutionnelle et qui faisait aussi fonction du Conseil d'État. Parce que la Cour suprême de justice a connu en 2011 les mêmes contentieux électoraux relatifs à l'élection de députés nationaux, bon, partant même du président de la République, députés nationaux, sénateurs, ainsi que le député provincial sera au niveau du premier degré que le cours d'appel.
Le cours d'appel, oui.
La particularité est lors de l'entrée en effectivité des classements, c'est-à-dire les classements effectifs par rapport aux deux autres cours, donc pratiquement trois, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, c'est que, en définitive, on a vu que ce n'est plus le même juge de la Cour de cassation qui traitait de la constitutionnalité, ou qui traitait de l'annulation, ou qui contrôlait la légalité, ou qui traitait de contentieux électoraux. Finalement, on a vu les choses s'assouplir. On sait que la Cour constitutionnelle s'est occupée exceptionnellement du contentieux électoral du président de la République, de députés nationaux et des sénateurs. Alors que le Conseil d'État s'est occupé du contentieux électoral au second degré, de l'élection de députés provinciaux et des gouverneurs de province.
Alors, et parce que nous parlons déjà, on s'est fait de faire le point sur le fonctionnement de ces hautes cours, parce que je l'ai lu d'ailleurs sur votre page Facebook tout à l'heure, c'était très très bien orienté encore. Alors, c'est que il y a la population qui est bénéficiaire de travail de ces juridictions, de toutes les façons, c'est la population qui bénéficie, c'est là. Il y a les travails que ces juridictions vont faire à un certain moment, mais il faut quand même qu'il y ait une conciliation entre le travail qui est fait et la compréhension de la population. Or, il s'avère qu'après les différents contentieux électoraux que nous avons connus, que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit au Conseil d'État, on vous a vu d'ailleurs écouter plusieurs fois dans beaucoup de médias autour de cette question, il ressort que la population a gardé une perception, on peut dire, négative de ces juridictions. Pourquoi? Parce que, soit les arrêts ont eu beaucoup de difficultés à passer, à être peut-être expliqués, compris, soit même que ceux qui ont saisi la Cour, le Conseil d'État par exemple, ont pu rejeter les arrêts. Alors comment on est arrivé à ça, vous qui êtes aussi un analyste, un observateur dans le domaine de justice?
Merci beaucoup. Je pense que s'il y a eu quelques problèmes au niveau de contentieux électoraux, je ne pense pas que ce sont des problèmes liés au fait que la Cour suprême s'est éclatée. Je ne pense pas que ce sont des problèmes liés au fait qu'il y a trois juridictions. Non, le problème, c'est juste... je vais situer tout ce problème au niveau politique, au niveau de la volonté politique. Et c'est important parce que le même juge qui ont connu le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau du Conseil d'État Et là, spécialement, je cite ceux qui sont magistrats de carrière et qui sont venus de la Cour suprême de justice. Mmh. Ce sont les mêmes qui ont connu ce même contentieux en 2011. Et il n'y a pas eu de problème comme il en a eu pour le contentieux électoral. Deuxième chose, il se pose un problème de la compréhension de la manière à saisir ces juridictions. Mmh. Et ça, c'est un problème technique. Beaucoup d'avocats, beaucoup de justiciables étaient en étude préliminaire de savoir comment on saisit ces juridictions-là. Mmh. De la même façon que vous me posez la question maintenant, M. Lameji, c'est la même question que, la même façon que les auditeurs se posent. C'est-à-dire que, comment saisit-on la Cour constitutionnelle? Comment saisit-on le Conseil d'État? Comment saisit-on la Cour de cassation? Et pour quelle matière? C'est là où se pose la question de la qualité. Qui peut saisir le Conseil d'État? Qui peut saisir la Cour constitutionnelle? Qui peut saisir la Cour de cassation? Et sous quelle forme? Par quoi saisit-on? Mm-hmm. Par une requête, par une lettre, par un message phonique? Voilà les questions. Ça, ce sont des questions de procédure. Mm-hmm. Outre la question politique, lorsque je dis question politique, c'est parce que pour la première fois dans l'histoire de la procédure, et ça, j'ai allé dire, on a assisté à une situation qui vient de perturber l'ordre de l'ordre de justice. Mm-hmm. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, par exemple, il y a eu deux situations. La première, c'est les débats autour du pouvoir du Conseil d'État à connaître deux appels interjetés contre l'élection de gouverneur.
Exact.
Il s'est posé un problème de droit sur la possibilité de la Cour constitutionnelle à revenir par la correction des arrêts matériels sur le fond de ces arrêts. Ces deux situations ont laissé la population dans une situation pas confortable. C'est ce qui fait que nombreux considèrent que ces juridictions n'ont pas effectivement répondu aux attentes de la population.
Exact.
Mais beaucoup plus, j'ai dit, politique d'abord et technique après. Politique parce que il n'est pas exclu qu'il y ait eu, et là je parle sous cette forme-là, il n'est pas exclu qu'il y ait eu une pression qui a fait que le juge, par exemple, de la Cour constitutionnelle puisse aller au-delà de ce que l'on fait habituellement. Il est des principes que le juge ne peut pas revenir sur le fond de ses arrêts. Et voilà pourquoi vous voyez même aujourd'hui, il y a trop de problèmes au niveau de l'Assemblée nationale.
Exact.
De la part de ces députés qui proclamaient par un arrêt se sont vus invalidés du fait de la correction de l'erreur matérielle. Mais vous savez, comme les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas modifiables, ne sont pas faire ceci, mais la Cour elle-même a modifié ces arrêts. Vous voyez, ne sont pas attaquables. Alors on s'est posé la question de savoir, désormais pour nous considérer que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont attaquables par correction d'erreur matérielle, ce qui pose un problème, ça fait fondre le principe de l'inattaquabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Mais alors, maître, s'il faut, d'abord, on va écouter les auditeurs rapidement. Est-ce que le travail maintenant, parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette confiance entre la population et ses cours et tribunaux, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est bénéficiaire du travail des cours et tribunaux. Est-ce que le problème doit être fait maintenant au niveau des cours et tribunaux, au niveau de ces juridictions, ou aussi la part politique est très importante, parce qu'il y aura encore les élections prochainement?
Je pense que les auditeurs doivent faire attention là-dessus. Le comble, c'est que la Cour constitutionnelle, par rapport à la question électorale, n'intervient que tous les 5 ans.
Et c'est là même que tout le monde sait que la Cour existe, parce que d'autres matières actuellement, la Cour, les gens ne s'intéressent pas tellement.
C'est-à-dire que la matière électorale n'est pas une matière de chaque jour. C'est une matière circonstanciée. De la compétence de la Cour constitutionnelle, mais circonstancielle. C'est-à-dire que, comme nous avons terminé les cycles électoraux, bien sûr, il reste encore
les élections locales
municipales. Mais vous allez vous rendre compte que ces élections-là, municipales et régionales, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, elles sont de la compétence des juridictions inférieures. Et là, on ne verra plus la Cour constitutionnelle cette question des élections. On la verra ou on ira devant la Cour constitutionnelle que dans 5 ans, en 2023 lors de nouveaux contentieux.
Et les matières qui sont aussi très périlleuses pour la vie de la nation.
Oui. Mais cependant, la Cour constitutionnelle continue à fonctionner dans les contrôles de la constitutionnalité des lois et des règlements. C'est-à-dire que parmi les fonctions de la Cour constitutionnelle, il y a l'examen de contentieux électoral, présidentiel et législatif.
National
et sénatorial. Mais dès que cette compétence, cette matière est épuisée, la Cour continue à fonctionner
sur le contrôle de la constitutionnalité.
De la constitutionnalité. Ça, c'est important. Et aussi, là, la Cour a deux justiciables, le président de la République et le premier ministre, quant à ce qui concerne les infractions qu'ils peuvent commettre, les infractions sont connues par la Constitution. Les délits d'initié et aussi la haute trahison. Mais le Conseil d'État aussi, à part les élections, le Conseil d'État continue à fonctionner. Parce que le Conseil d'État, c'est une haute juridiction importante. Malheureusement, et je pense que le professeur Vundwaoui, le premier président du Conseil d'État, a revenu là-dessus parce qu'il a besoin que les tribunaux administratifs, que le cours administratif d'appel soit installé. Parce que jusque-là, il y a encore une jonction. Il y a les cours d'appel de l'ordre judiciaire qui continuent à servir comme cours administratif d'appel pour le Conseil d'État. Donc, il y a une double allégeance. Donc, le cours d'appel, qui dépend du premier président de la Cour de cassation, mieux, de la Cour de cassation, dépend en matière administrative du premier président
du Conseil d'État.
Donc, les gens ne le savent pas peut-être, mais plus chaque jour qui passe dans cette ville, chaque jour qui passe dans nos provinces, les autorités politico-administratives signent des actes portant grief. Chaque jour. Lorsque le ministre a signé l'arrêté, lorsque le gouverneur a signé l'arrêté de démolition, lorsque le bourgmestre a signé telle décision pour changer l'emplacement des marchés, ce sont les contentieux administratifs, lesquels les actes posent grève, lesquels les actes pèsent causer des dommages. Vous voyez? Et à ce titre-là, ces juridictions-là sont importantes. D'où la nécessité et l'urgence de doter l'ordre administratif des juridictions inférieures.
C'est important. Voilà. On va revenir à vous, Jérémy, Olivier, Yves. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à notre invité.
On vous écoute, oui.
D'entrée de jeu, je salue vraiment la pertinence de ce sujet parce que, vous savez, il n'y a pas longtemps, on a décrié beaucoup de choses, surtout dans ce secteur de l'appareil judiciaire. Et vous savez, comme vous le savez, nos mémoires ne sont pas effacées. Nous venons des élections il y a peu. Et vous avez eu comment est-ce que les traitements, surtout dans les contentieux électoraux, ont presque sali l'image de l'appareil judiciaire au jour d'aujourd'hui. Vous avez eu peut-être à l'entendre que certaines, soit des députés ou les élus, certains ont pu paraître soit aisés, pour la simple et bonne raison, voilà, il y a eu le mauvais traitement dans leur contentieux. Ce qui m'a étonné, c'est que l'appareil judiciaire, avec la justice au centre, qu'est-ce qui fait que les choses telles que l'erreur matérielle arrivent à prendre de l'avance dans un état qu'on veut structuré et organisé? Je n'arrive pas à comprendre et ça peut plus. Je trouve que pendant ce moment, on devait normalement, à tout prix, essayer un peu d'assainir tout l'espace judiciaire pour ne plus que octroyer les tâches dévolues aux uns et aux autres. Ici, en province, il y a eu certains qui étaient peut-être incompétents pour traiter tel ou tel dossier dans ce qui concerne les contentieux électoraux, mais qui se sont tapés, qui se sont donné des culots de traiter les dossiers qui ne pouvaient pas être à leur compétence. Ça, c'est vraiment une violation grave aussi dans notre pays où nous voulons que la loi et le respect des lois soient vraiment au centre. Il y a aussi un problème. Il y a certaines autorités qui nécessairement également doivent être entendus, qui sont frappés par ce point, mais on se rend compte que la Cour constitutionnelle n'arrive pas à traiter le point d'une manière équitable parce que soit on est d'une telle obédience ou de telle catégorie, et lorsqu'il s'agit de traiter un tel dossier, voilà, on les politise. Alors, nous voudrions que vraiment, c'est très bien sûr, d'éclater comme on l'a fait, on a éclaté en Cour constitutionnelle, Cour de cassation et voire même les Conseils d'État, mais nous voudrions qu'il y ait une certaine harmonie dans la totale des tâches des uns et des autres.
Et des autres, merci. Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez d'ailleurs évoqué les cas d'examen des contentieux électoraux en province. On va voir avec notre invité au niveau de cours d'appel, parce qu'il y a eu ces matières administratives. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de cours d'appel, parce que l'invité a insisté sur les juges spécialisés pour chaque matière, mais est-ce que déjà, dans le fonctionnement des cours d'appel, y a-t-il des gens qui sont spécialisés pour chaque matière, où chacun connaît ces matières de cette manière-là? Merci beaucoup. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense qu'il y a un problème. Hein. Si vous suivez le discours de Maître Matadi Wamba, le bâtonnier national, vous comprendrez que déjà à ce niveau, il ne voit pas clair. Lorsqu'il s'interroge sur le bien fondé de l'éclatement de la Cour suprême, ça c'est une chose que tout le monde, c'est une question que tout le monde s'est déjà posée. Mais il est allé très loin. Il a parlé de bégaiement juridique. Il voulait parler en fait de tâtonnement. Parce que si vous examinez très bien ce qui s'est passé, aussi bien au niveau de la Cour constitutionnelle que dans les autres juridictions, c'est vraiment des tâtonnements qu'on a observés. Et ça c'est très grave. On ne sait pas où nous allons. Alors, un autre problème que nous observons, c'est quoi? C'est que les autres juridictions, la Cour de cassation et le Conseil d'État, au fait, on ne sent pas qu'ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Ils ont des compétences. Prenons la Cour de cassation. Elle doit juger les personnalités politiques que nous connaissons. Mais est-ce qu'on a déjà saisi une de ces personnalités? Est-ce que le ministère public de la Cour de cassation a déjà poursuivi une autorité? Non, on ne le sent pas. Le Conseil d'État, on nous dit très bien que le Conseil d'État, il a parmi ses compétences, le Conseil d'État, il examine les affaires portant sur la légalité des actes administratifs posés par les autorités. Mais prenons les cas qui venaient d'être vécus dernièrement. Les nominations des bourgmestres par les gouverneurs, ça c'est un acte qui devait être examiné par le Conseil d'État. Mais jusque-là, bon, on ne sent pas que ces gens sont concernés. Et donc, ce sont des choses. On a l'impression qu'eux, ils observent et ils attendent que la population réagisse ou que l'autorité qui les a nommés puisse leur demander de faire quelque chose. Ça, ce n'est pas normal. Donc, je pense que si Maître Matadi Wamba s'est posé la question, eh bien, tout le monde se pose la même question. Les juridictions sont là ou bien les responsables ont été nommés pour le plaisir de ceux qui les ont nommés, ou bien ils ont été nommés vraiment à dessein. Et là, nous pensons aux élections parce qu'effectivement, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation et le Conseil d'État, vraiment, on a senti qu'ils avaient un parti pris. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc, je pense qu'il y a un problème.
Et là même, d'ailleurs, il faut qu'on arrive à améliorer. Mais vous posez quand même un problème assez intéressant. Notre invité va revenir là-dessus. Le cas des actes des gouverneurs, on a vu au Kassai central où même les gens ont pu manifester contre les arrêtés du gouverneur portant nomination de bourgmestre, de permutation, nomination de maire de la ville, administrateur des territoires. À Kinshasa, on l'a vu avec les bourgmestres. Il y a même encore les gens qui prévoient y manifester à Kinshasa, je crois, les mouvements citoyens par rapport à ça. Et vous aurez aimé voir les conseils d'État se saisir de tels cas pour pouvoir les examiner. Merci beaucoup, Olivier Yves. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. On vous écoute.
Voilà. Bon, je voulais saluer d'abord le conseil qui est sur le plateau pour son analyse extrêmement pertinente. Je pense que l'idée de base, comme il est en train de dire, c'était pour que finalement on puisse avoir une certaine spécialisation, une certaine spécialité dans l'éclatement de la Cour suprême de la justice. Mais aujourd'hui, le patron national est en train de poser des questions très fondées parce que il y a une certaine inertie. Donc le cours tel qu'il est éclaté ne semble pas fonctionner comme il s'est dit, notamment la Cour constitutionnelle. Moi, je pense que le problème se trouve au niveau politique. Dès lors qu'on a estimé que certains membres de la Cour constitutionnelle doivent venir de l'initiative personnelle du chef de l'État, et que certains membres, par exemple, du Parlement, vous comprenez déjà qu'il se pose un problème d'indépendance même dans les chefs de ces élections-là. Donc moi, je pense que on peut revenir pour revoir un peu cette expression concernant notamment l'article 153 de la Constitution ainsi que l'article 151, parce qu'il y a une certaine contradiction. Tantôt on dit on ne peut pas se mixer dans le pouvoir judiciaire, mais tantôt on dit, écoutez, il y a certains membres de la Cour constitutionnelle qui peuvent provenir de l'initiative personnelle du chef de l'État et que d'autres doivent provenir de l'Assemblée nationale. Vous comprenez que là, c'est déjà une émission. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent au niveau de l'élection, il y a une certaine inertie, il y a un certain tâtonnement pour lequel les partenaires se posent raisonnablement les problèmes. Donc, le problème se pose au niveau de la politisation de ces juridictions, bien que la Cour suprême ait éclaté, mais on a politisé ces juridictions-là. Je pense qu'on peut revoir ces dispositions.
Merci beaucoup, Yves. Merci Yves. Louis et Mopi, là, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
On revient à vous, maître Willy Wenga. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a aussi ces appréhensions, comme on l'a dit depuis le début de l'émission. Il y a notre ami de Lubumbashi qui parlait sur les compétences en province par rapport à l'examen de ces différentes matières au niveau de cours d'appel. Olivier, lui, revient sur la compétence de la Cour du Conseil d'État. Il y a des problèmes aujourd'hui avec les actes posés par les gouverneurs. Et Yves parle de l'inertie, mais lui, il va plus loin en disant même que depuis la Constitution, déjà, les problèmes s'est posés pour permettre à ces juridictions de pouvoir fonctionner de manière libre, parce que les mots de désignation posent problème. Voilà un peu ramasser ce qu'ont dit nos compatriotes.
Merci beaucoup pour les auditeurs qui nous suivent et nous les saluons. Je pense que les préoccupations des auditeurs sont des préoccupations légitimes. De même que la manière dont le bâtonnet national, mon bâtonnet national, aille à présenter les inquiétudes du barreau, parce que lorsque le bâtonnet national prend parole dans une rentrée judiciaire, c'est au nom du barreau. Ce sont des préoccupations qui sont fondées. On sait que lui, comme porte-voix de toute une institution comme le barreau, porte-voix des 100 voix, n'est-ce pas tous ces auditeurs, ces justiciables, qui aimeraient voir les choses changer, qui aimeraient voir ce besoin né de l'éclatement prendre forme, n'est-ce pas? Il ne pouvait que se poser beaucoup de questions. Moi, je pense que je dois partir d'abord d'un principe. Le plus grand principe, et je reviens là où les auditeurs doivent le comprendre, c'est que les instances de justice ne s'auto-saisissent pas. Le Conseil d'État ne s'auto-saisit pas. La Cour de cassation ne s'auto-saisit pas. La Cour de cassation est saisie par le ministère public. Le Conseil d'État, au moins, le Conseil d'État est saisi par la victime de l'acte, par voie de requête principale. Le Conseil d'État, il est saisi par un avocat lorsqu'il s'agit de contentieux de pleine juridiction. Et il est saisi par un avocat près le Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'une matière de pourvoi. Et ici, la question fondamentale, je prends le cas de violation flagrante de la loi et de la Constitution. Lorsqu'il y a les désignations de bourgmestres, des administrateurs de territoire, par des gouverneurs de province, pour quelque motif que ce soit, il revient aux victimes de cette décision-là.
De saisir le Conseil d'État.
Il revient, encore que c'est un acte d'un gouverneur, Alex, ce n'est pas le Conseil d'État, c'est la Cour administrative d'appel.
Ouais.
Parce que c'est un acte d'une autorité administrative régionale mm-hmm. ou provinciale. Donc, il faut que la victime... Parce que parmi les bourgoumestres, par exemple, il y a ceux-là qui ont perdu leur poste.
Exact.
Il n'y a pas seulement ceux qui ont été permis pour se dire, non, très bien, comme je garde encore mon une commune dans la ville, je ne veux pas déranger les actes du chef. Sinon, je scierai l'arbre sur lequel je m'assois, du fait que moi-même, je vais tomber avec la décision. Mais ceux-là qui ont perdu leur poste, ils avaient tout intérêt, n'est-ce pas, à saisir la juridiction compétente en matière administrative pour que l'arrêté du gouverneur soit cassé ou soit annulé. J'avais suivi par voie de presse d'autres administrateurs, d'autres bourgoumestres de la ville de Kinshasa qui, à leur temps, furent aussi permis ou changés ou suspendus par le prédécesseur de l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, mais n'ont jamais saisi la justice. Il se pose aussi un problème de plus en plus ici en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a de ces juridictions qui n'ont pas de greffe d'exécution. C'est-à-dire lorsque le Conseil d'État décide, qui exécute la décision du Conseil d'État? Ça devient une question politique. Mm-hmm. Lorsque la Cour constitutionnelle décide, qui exécute? Ça devient une question politique. Mais l'avantage de la juridiction de l'ordre judiciaire, c'est qu'il bénéficie des greffes d'exécution. Ou lorsqu'une décision est prise, il faut directement l'exécuter dès que toutes les voies de recours sont épuisées. Mm-hmm. Mais il faut, au même moment que je suis d'avis avec ceux qui pensent que les institutions éclatées bégayeraient un peu, au même moment je me dis que relativement à des questions spéciales, que la matière administrative ou la matière constitutionnelle, je pense que nous sommes aussi le commun des mortels devrait d'abord comprendre comment ça devrait fonctionner. Une certaine pédagogie devait être mise sur pied à travers la presse mm-hmm. pour expliquer aux auditeurs, pour expliquer aux téléspectateurs, aux justiciables, comment fonctionnent ces nouvelles juridictions. Mais aussi, c'est ça le travail des avocats. Parce que les avocats qui sont les auxiliaires de justice saisis par leurs clients victimes sont eux qui connaissent comment ça fonctionne, comment on saisit. Mais il se pose un problème de confiance. Et ça, c'est pertinent. Lorsque le 9 juge de la Cour constitutionnelle, chacun a ses origines.
Et c'est pourquoi Yves, qui est aussi juriste, hein,
il estime que
le mot modifier... désignation pose déjà problème.
Oui, en fait, c'est ça le problème aussi. C'est que la question qu'on pourrait se poser de savoir, les trois juges qui sont désignés à l'initiative du chef de l'État, resteront-ils indépendants vis-à-vis du chef de l'État? Les trois juges qui viennent du Parlement, laisseront-ils indépendants vis-à-vis du Parlement? Les trois juges qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature demeureront-ils indépendants vis-à-vis du Conseil?
C'est-à-dire que déjà, six juges viennent en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. C'est
oui,
déjà un problème.
Six juges.
C'est
un déséquilibre.
Exactement. C'est la vérité. Et si les trois autres estiment qu'ils peuvent garder l'esprit d'indépendance, oui. Mais ils ont la majorité des juges qui siègent, mais qui ne proviennent pas de la même conception.
Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Ce que les gens oublient, c'est que toutes les autorités de la République sont nommées par le chef de l'État. Toutes les autorités. Même tous les autres magistrats. Le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Conseil d'État, sont nommés par là, le président de la République. Est-ce que par là, pouvons-nous soutenir que du fait qu'ils sont nommés par le président de la République, ne seront plus indépendants? Non. Moi, je pense que la question fondamentale ici est une question d'éthique. Mmh. Une question éthique. C'est-à-dire que les animateurs de ces institutions-là, le juge au sein de ces juridictions-là, ont-ils compris qu'ils ont la mission de changer les choses? Ont-ils compris qu'ils ont la mission d'offrir à la République la spécialité? Ont-ils compris aujourd'hui qu'il faut aider le peuple congolais à mettre la main sur tout acte qui violerait la loi? C'est un problème important. Mais aussi, je tenais à rappeler que la Cour de cassation, comme juridiction, mm-hmm. n'est pas intervenue dans le contentieux électoral.
Oui.
La Cour de cassation n'est pas intervenue dans le contentieux électoral. Et c'est une juridiction de cassation. C'est pas une juridiction de fond. Et ça ne s'auto-saisit pas. Le premier président de la Cour de cassation est saisi par le parquet général pour la Cour de cassation. Donc, le dysfonctionnement à ce niveau-là, et beaucoup à réchauffer, la fonctionnalité est à réchauffer au niveau du parquet par rapport à des personnes à poursuivre. Mais le procureur général a donné une réponse à cette question-là lors de la rentrée de la Cour de cassation. Le procureur général de la Cour de cassation avait dit, il y a dénoncer une infraction est une chose. Soutenir cette infraction en est une autre. Pour dire que beaucoup de gens clament à l'infraction commise par tel ou par tel, mais peu amènent au procureur
des preuves,
les éléments pour qu'ils puissent poursuivre. Et ça, c'est important. Pourquoi les Kolouna, on les arrête aujourd'hui, on les libère demain? C'est parce que, à un certain moment, et la Meji, on a des justiciers, on a des détenus en prison, mais qui n'ont pas de plaignants. Parce que les plaignants se sont limités au marché de la liberté, où ils ont réclamé à Kende, comme on dit à Lingala, et qu'ils partent et qu'ils partent. Mais dès qu'ils partent, la police transmet vers le parquet, où le parquet se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas de plaignant. Conséquence, qui va appuyer? Qui va témoigner? Il n'y en a pas. Et la personne, lorsqu'il se défend, c'est sa version qui devient une version
Et c'est la même chose avec des cas qui arrivent, par exemple, avec le monde politique. Quand on parle de détournement d'argent, on a vu ceci. Il y a, par exemple, tel ONG qui a saisi le procureur qu'on aurait détourné l'argent. Et puis après, ça s'arrête là.
Après, ça s'arrête
mais
là.
Mais dans la compréhension, on comprend peut-être que non, le procureur ne veut pas poursuivre parce qu'il y a des interférences politiques.
Non, non, le procureur ne peut pas refuser. En fait, c'est lui qui apprécie l'opportunité de poursuite. Mais dans la plupart des cas, ce sont des dossiers non documentés. Je ne fais pas l'avocat du procureur, mais je suis un observateur de la vie judiciaire. Je me dis toujours, il y a beaucoup de pierres qu'on jette sur la justice, sur le fonctionnement de la justice. Effectivement, il y a des problèmes, mais je ne pense pas que c'est diabolique. C'est beaucoup plus, les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais si on savait comment ça fonctionne, on soutiendrait beaucoup d'accusations et on arriverait à ce que l'on veut commettre.
Voilà. Préoccupation. On va écouter Louis Mopila et Giscard. Louis, vous êtes à Kikuit. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute.
Merci. Je disais que l'éclatement de la Cour suprême de justice n'est pas un fait au hasard. C'est un fait constitutionnel. Les bâtonniers ne pouvaient pas se demander comme ça. Et loin d'être la cause du bilan mitigé de ces ordres juridictionnels. En fait, c'est le manque de savoir-faire, la cohésion et l'harmonie qui est à l'origine de ces résultats. Et que dirais-je des allégations de corruption qui gangrènent ces animateurs? Nous avions vu ici la Cour constitutionnelle revenir sur ses propres arrêts. Et la confusion qui a régné entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État pendant le contentieux électoral, ça ne pouvait pas arranger les choses. Moi, je compare la Cour suprême de justice comme une équipe de foot et les trois ordres là comme des joueurs qui ont tous un même objectif et qui devait travailler en cohésion et en harmonie pour atteindre cet objectif. Je pense que c'est ça que j'avais à vous dire.
Merci beaucoup, Louis Mopila. Vous êtes à Guéména. Bonjour. Mopila, vous êtes avec nous.
Oui. Oui, bonjour avec vous.
On vous écoute, oui.
Je dis bonjour à Piro. Je dis bonjour à Honoré Confrère Willy Wenga. Aussi, bonjour, si jamais le professeur Vundor est en train de me suivre, je le salue là où il est, parce que c'est le seul magistrat qui fait l'honneur de la magistrature au niveau du Congo. Professeur Vundor, oui. Je dis ça, je connais le pourquoi. Aujourd'hui, c'est à cause du comportement des magistrats que Honoré est en train de parler aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont commis par rapport au temps de contentieux électoraux. J'étais avec Honoré au Conseil d'État. Je vis comment mon grand frère a transpiré pour expliquer le droit aux gens, entre autres aux magistrats. Et moi, je me dis, si aujourd'hui un problème se pose au niveau de la justice, c'est par rapport au comportement positif des magistrats eux-mêmes. Et c'est là où, comme avocat, je mets en cause le serment de respecter les magistrats. Ils doivent mettre le point de suspension pour dire quel magistrat qu'on doit respecter comme avocat. Respect du magistrat, c'est lequel C'est là où je recommande à mon grand frère de chercher comme aîné à modifier cette disposition assermentée qu'on nous donne le droit de respecter les magistrats et on ne sait pas dire quel est magistrat. Nous voulons respecter les magistrats qui ont une bonne moralité du côté de droit. Je prends trois exemples. Et moi-même, j'étais victime et je me demande est-ce que le droit congolais a un niveau complémentaire ou à un niveau différent. Je prends le cas des dossiers de mon client à l'époque, l'ancien gouverneur de la province de Bangui, Joachim Taïla. Taïla a été invalidé par la CENI. Or, la loi électorale dit que non, toute décision de la CENI doit être dûment motivée. On saisit la cour d'appel de Sidoubangui. Pendant que la décision de la CENI n'était pas dûment motivée, nous allons en appel au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État donne des raisons à Taïla par trois fois d'ailleurs. Et la question que je me pose, les magistrats ou les juges de la cour d'appel de Sidoubangui et les magistrats du Conseil d'État, les droits qu'ils ont appris, c'est différent. C'est ça le problème par rapport à la loi électorale. Ça, c'est un. Je prends aussi un exemple. J'ai défendu un monsieur qui s'appelle Becken. La CENI, comme expert, la CENI a dit qu'il y a bel et bien erreur matérielle. La cour d'appel a refusé catégoriquement jusqu'à aujourd'hui. Elle-même la CENI.
Voilà. Là, on a des petits soucis. Hein. Ah, dommage. Dommage, on a perdu Maître Mopila qui nous appelait des Guéménan avec des cas hein, que lui-même s'est retrouvé. Hein. Cette affaire, on a beaucoup suivi vraiment ce qui s'est passé au niveau de la question de Monsieur Taïla. Trois fois, il a eu raison, gain de cause au niveau du Conseil d'État. Mais, bon voilà, il y a eu trop de choses, trop de problèmes autour de ces différents dossiers. Giscard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, j'interviens dans le dossier parce que j'ai vu la pertinence de la question. Mm-hmm. Je ne suis pas juriste, mais je suis congolais et je dois poursuivre ce qui se passe dans mon pays. Étant donné qu'on a dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, je ne parle pas de l'éclatement, je n'entre pas dans la technicité du droit, mais je suis dans la forme qu'on voit souvent. Est-ce que le maître peut nous expliquer un arrêt rendu sur le gouverneur, je ne sais pas, de quelle province où M. Chadar avait annulé par inarrêté? Est-ce que le maître peut expliquer, étant donné que sur la question du contentieux électoral, la Cour est siégée en matière de contentieux électoral, la CENI est venue en tant qu'organe technique pour éclaircir le contentieux électoral, mais la CENI se comporte d'un avocat d'un candidat à la présidentielle. Est-ce que le maître peut expliquer, est-ce que le procureur général de la Cour de la Cour constitutionnelle ne peut pas éclaircir le dossier étant donné qu'il y a eu confusion en termes de publication des élections dont la CENI n'a tenu compte des entités territoriales et des provinces? C'est ça ma petite préoccupation.
Voilà, je crois que comme le disait tout à l'heure Maître Wenga, c'est-à-dire que les juridictions continuent à travailler, mais la matière électorale, elle a tellement occulté toutes les autres matières qui sont traitées au niveau de ces juridictions. C'est vrai que la question électorale, elle est vraiment capitale. C'est une question aussi qui a beaucoup de dépassions. Je crois que c'est pourquoi l'image de ces juridictions a été... les juridictions ont été jugées en fonction du contentieux électoral. Merci beaucoup, France. Francis, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue l'invité ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui. Bon, je voulais intervenir beaucoup plus par rapport à la genèse même de cette cour. Parce qu'il y a un adage qui dit quand la prémisse est mauvaise, la conclusion sera aussi mauvaise. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ainsi que la constitution de Lunebourg du 1er août 1964 avaient également prévu la Cour constitutionnelle, mais à des degrés d'organisation un peu variés. Il fallait attendre l'arrêt Mahamba pour que ses compétences soient transférées à la Cour d'appel de Léopoldville. Avec la révision avec la constitution du 27 juin 1967 et sa révision du 15 août 1974, cette institution a eu du mal à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'au sein du MPR déjà, il y avait une commission qui s'occupait des affaires qui concernaient la justice. Et après ça, cette histoire a disparu en 1974 pour être soulevée en 2006. La Constitution l'a prévu le 18 février 2006. Mais bien après cela, il y a eu un grand silence. La Cour n'était pas là. Elle fonctionnait comme une section au sein de la Cour suprême de justice. On a attendu 2006 jusqu'à initier en 2010 et la loi a été adoptée le 15 octobre 2013. Donc déjà, partant de la genèse, vous voyez qu'il y a un sérieux problème. La politique n'arrive pas à laisser libre cours à la justice. Mmh. Alors là, c'est par rapport à la genèse pour montrer que cette cour a du mal à fonctionner par sa nature même. Mais en ce qui concerne les principes et autres, les principes sont là. Quand nous voyons l'organisation même du Conseil constitutionnel français, c'est presque la nôtre, puisque nous nous en sommes inspirés suffisamment. J'estime que ce n'est pas un problème des textes. Quand vous lisez ces textes, en tout cas, c'est clair. Il n'y a même pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est un problème d'homme. Au Conseil d'État, on voit les origines différentes des juges qui sont là. Mais ils sont indépendants. Il y a le principe de l'indépendance qui prime, ce qui n'est qu'à l'égard chez nous. Donc moi, j'estime que ce n'est pas un problème de texte ou quoi que ce soit, non. C'est un problème d'homme. Si l'homme congolais changeait de mentalité, si l'homme congolais devenait indépendant, que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelles que soient les origines même de votre désignation, dès que vous êtes au niveau de la cour, vous n'êtes plus lié, vous êtes lié au texte, aux faits, et rendez le droit.
Ok, c'est merci.
C'est un problème d'homme.
Merci beaucoup. On revient à vous rapidement, Maître Wenga. On va revenir pour écouter Gervais et Félicien qui sont à Kinshasa. On revient à vous, peut-être en bref, pour permettre aux deux derniers de pouvoir parler, qu'on puisse conclure cet échange. Alors, on revient. Presque les gens ont dit la même chose. Maître Mopila, il était en train de parler des cas qui lui sont arrivés, où il y a eu déjà des arrêts. Tout cela est arrivé. Mais il a posé un véritable problème sur l'exemplarité, n'est-ce pas, de magistrats qu'il faudrait respecter. Vous avez ces serments, il parle de la moralité et vous avez parlé de la question d'éthique. Mais est-ce que ces questions ne sont pas évoquées régulièrement dans les différentes rencontres du domaine?
Merci beaucoup. Et là, mais je pense que très rapidement, je dois reconnaître une chose, c'est que le premier président Jérôme Kitoko, lorsqu'il était encore, il est président du Conseil supérieur de la magistrature, a eu à faire deux communications importantes sur l'éthique des magistrats. Et chaque fois, lors de rencontres entre les responsables de haute juridiction et les juges, on revient toujours sur la question de l'éthique, la discipline du magistrat. Je pense que tout à l'heure, le confrère Mopila, qui de Guémena, voulait savoir quel magistrat devons-nous respecter, parce que notre serment, l'article 14, c'est ça, de la loi organique sur le barreau, consacre la disposition sur le serment de l'avocat. Et là-dedans, on parle qu'on jure de respecter le magistrat. Moi, je pense que ici, un papa reste un papa. Qu'il soit sous l'art ou quoi, il reste un papa. On peut dire que je dois respecter mon père parce qu'il ne boit pas. Et lorsqu'il boit, je le respecte. Un magistrat reste magistrat. Et en tant que formateur des avocats, moi, je ne peux pas dire à un avocat non. Comme il a un problème d'éthique, ne le respectons plus. On doit le respecter. Par contre, on doit continuer à appeler à la bonne éthique. Avocat et magistrat, parce que c'est un problème de tout le monde. La question éthique, c'est un problème des avocats et des magistrats. Mais ici, il se pose un problème, c'est que je pense qu'on doit donner du temps au Conseil d'État. On doit donner du temps à la Cour constitutionnelle. Malheureusement, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction à mandat. C'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui, ils les sont par mandat. Donc, à raison d'un tiers, on remplace le membre de la Cour constitutionnelle. Mais beaucoup plus, il y a la Cour constitutionnelle a le tort d'avoir dans sa compétence de traiter les questions politiques. Or, les questions politiques sont sensibles. Proclamer le résultat d'une élection, c'est une question politique. Au-delà d'abord d'être une question juridique ou judiciaire, c'est une question politique. Donc, or, ce qui est du domaine des politiques est du domaine des sentiments. Ce qui est du domaine des politiques est du domaine de la pression. La question que les auditeurs doivent se poser, savoir, est-ce que ces magistrats ont-ils résisté à une pression politique quelconque? Et comment faire pour que la Cour constitutionnelle congolaise puisse être comme la Cour constitutionnelle française, résistante à toute pression? Il en est de même du Conseil d'État. Il en est de même de la Cour de cassation. Et là, je dois préciser, c'est même une préoccupation d'un auditeur intéressant, qui dit... la plupart de fois, on ne sait pas comment les cours sont saisies. Vous voyez le cas du bas Congo, du Congo central, quoi. Le procureur général voulait poursuivre une situation. Mais l'Assemblée provinciale l'a bloqué parce qu'elle n'a pas autorisé la poursuite. Il y a blocage. Et la Cour de cassation, par exemple, qui est la juridiction pour connaître des forfaits commis par les ministres provinciaux ou les gouverneurs de province, ne pouvait pas s'autosaisir. il fallait qu'on laisse le passage au procureur général pour la Cour de cassation mm-hmm. pour poursuivre, à lui d'arriver à l'innocence ou à la culpabilité, et à ce moment-là, la Cour de cassation voilà. est saisie, par exemple.
Alors, on va écouter rapidement deux auditeurs, parce que là, on n'a qu'une minute pour chacun. Dommage, c'est vraiment la fin de l'émission. Gervais, vous êtes à Calémie. En bref, en un mot, Jérémy, votre point de vue. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Biro. Bonjour aussi à l'invité. Bien qu'étant à la fin de l'émission, mais j'aurais bien voulu un peu parler en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC. Bien que... garantie par l'alinéa premier de l'article 149 de la Constitution. Nous trouvons que cette indépendance n'est qu'une lettre morte. Mais ayant suivi un peu avec intérêt le vide du jour, mm-hmm. il a parlé par rapport au Conseil d'État en France, parce que appartenant à la famille, dans la même famille romano-germanique, nous trouvons qu'en France, il y a un peu une meilleure organisation parce qu'il y a même des juges fédéraux au sein de la Cour du Conseil d'État. Mais avec des insuffisances, c'est là. Mais en RDC, si nous regardons bien les articles 151, 152, comme si le juge, disons en bref, les juges ont toujours un peu subi certaines questions.
Voilà. Et la question de la pression, dommage, Gervais, merci beaucoup. On va vraiment terminer cette émission. Félicien, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. On vous écoute, Félicien.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Moi, je vais dire que les problèmes du pouvoir judiciaire au Congo, c'est d'abord un problème d'homme, un problème d'éthique et de moralité. Et le plus grand problème, c'est que nous avons fait les plagiats sur les droits français et nous avons copié tout ce qui est dans les droits français pour l'appliquer chez nous. Mais nous avons donné beaucoup de pouvoirs à nos magistrats, à nos juges. Mais nos juges n'ont pas été éduqués, formés comme les Français. Et les Français, déjà, depuis son bas âge, on lui a montré que le mensonge, c'est mauvais, la corruption, c'est mauvais, tout ça. Dans la plupart des cas, un grand nombre de ces gens-là, ils sont dans des vertus, ils savaient respecter les droits des autres, et tout ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et vous donnez tous les pouvoirs à ces gens-là, et ils en abusent. Même les hauts magistrats, donc ils n'ont même pas honte du mensonge, ils n'ont même pas honte de la corruption, et ils les pratiquent à ciel ouvert, et c'est ça
voilà.
la culture.
Et c'est comme disait tout à l'heure, Yves disait que non, les prémices c'est déjà biaisé, non, je crois que ça a été dit je crois aussi, jusqu'à... Alors merci beaucoup,
Félicien. Oui, c'est là où l'Assemblée Générale voilà. doit revoir, on ne peut plus laisser des lois comme ça.
Voilà, merci beaucoup. On revient à vous rapidement, Maître Wenga, parce que là, on doit vraiment conclure cet échange. On ne peut pas tout aborder, mais on comprend quand même qu'il y a une grande question pédagogique qui doit se faire dans ces domaines. C'est vraiment aussi votre mot de conclusion.
Merci beaucoup. Je pense que une pédagogie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est il faut former et informer nos auditeurs, mm-hmm. il faut informer notre peuple, il faut informer les justiciables de la manière dont on saisit les juridictions, la manière dont ces juridictions fonctionnent, pour qu'on sache s'il y a un problème, c'est au niveau des juges ou au niveau de la manière dont les juridictions ont été saisies. Mm-hmm. Parce que la plupart des fois, c'est ça le problème. On met tout sur le dos du juge, alors que nous, les avocats, déjà, nous ne savons pas comment on saisit les juges. Soit on l'a mal fait, soit on n'a pas pris des précautions pour savoir si notre client a qualité ou n'a pas qualité, ou c'est, en matière de personnes morales, partis politiques et autres, est-ce que ce parti politique avait une personnalité juridique? Est-ce que celui qui engage les partis politiques était la personne habilitée à l'engager par rapport à leur statut? Il y a un nom nouveau qui est voilà, venu, le regroupement politique. Vous voyez tout ça. Et au deuxième niveau, je termine par là, c'est au niveau de l'éthique du juge. L'éthique du juge, le magistrat, merci. Le juge doivent afficher une éthique qui les mette hors merci. D'état d'être soupçonnés. Pour quelque
merci,
que ce
merci
soit
beaucoup, Maître Wenga Ilombe, avocat près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Merci d'avoir été notre invité. Merci aux auditeurs. On poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Alain Goy qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Gilles Longuembo et Nico Kalamba. Et Paroles aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci et au revoir.